Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 24. Ça me rappelle quelque chose, toi, tu vois. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues. Et ce soir, nous parlerons empreintes digitales et flambées antisémites dans Paris Police 1900 sur Canal+, esprit de révolte et liberté de pensée avec les aventures du jeune Voltaire sur France 2. Et enfin, régime drastique et chasse aux délinquants sexuels dans Dietland sur Terra.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir autour de la table, Ava Kahen de French Mania. Bonsoir,
salut,
Ava, tout
salut
va bien?
Tout le monde, tout. Ça va.
Eh ben, nous aussi, on est ravis d'être
mieux
là.
Mieux quand
avec
on
vous.
Est là. Ouais.
Marianne Lévy, autrice de ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne aux éditions Pygmalion. Bonsoir, Marianne.
Bonsoir, Xavier. Salut, Benoît et Ava.
Alors, ne le croyez pas, cette petite voix douce cache quand même de temps en temps une perfidie dont nous allons, j'espère, profiter ce soir. Et puis, il nous faut une voix de stentor, une voix de mâle comme ça. Mais
bonsoir et bon
dominante.
Week-end.
Croit-il, mais dominé souvent, en tout cas par la par nos chroniqueuses, et c'est Benoît Lagan, bien sûr, du 5-7 de Mathilde Munoz et de Télé Matin. Vous êtes prêts pour le premier débat?
Prêt.
Paris Police 1900, une série de 8 épisodes, nouvelle création originale de Canal+, est diffusée à partir du 8 février, donc dans moins de 48 heures. Je crois qu'on aura compris à l'énoncé du titre quand et où se déroule la série, ça a au moins le mérite d'être clair.
Ça se passe pas à Nice.
Voilà, donc dans une capitale que vous aurez reconnue, un rien putride, rongée par les pires inégalités sociales, encore hantée par la débâcle, je vais y arriver, de la guerre de 70 ainsi que par l'affaire Dreyfus, les antisémites ne se cachent plus. Leur plume fielleuse et sordide s'étale à la une de l'anti-juif quotidien nauséeux à l'extrême. Du coup, cette parole favorise les agressions commises à l'encontre de la communauté juive, accusée évidemment de tous les maux. C'est dans ce contexte que le président Félix Faure rend l'âme dans la bouche d'une belle maîtresse et que le préfet Lépine, autrefois placardisé et opposant aux antisémites, revient enfin à Paris. Une poudrière politique pouvant exploser à tout moment. Le meurtre d'une jeune femme et la découverte macabre de son cadavre découpé et bien rangé dans une malle pourraient servir de détonateur. Un jeune policier intrigué par les travaux d'Alphonse Bertillon qui ouvre enfin la voie à la police scientifique, mène l'enquête et tente de lutter contre les coups tordus de ses collègues et de sa hiérarchie.
Oh ! Regardez, là !
Messieurs, on ne bouge plus.
Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée ?
Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247.
Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ?
Sophie. On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence.
Police, ouvrez!
Et on devient enquêteur.
Le courtisan à moucharde, la panthère aide.
On gagne sa vie comme on peut.
Il fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne.
Voilà qui nous attend!
Bienvenue à l'anti-juif.
Le préfet Lépine de retour aux affaires.
Pourquoi moi?
Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet.
Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion.
Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra.
Attention. La dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort.
Et en plus, elle est coquine.
Est-ce que cette bouche fatale est fiable ?
C'est toute la question. Paris Police 1900, une série créée par Fabien Nury qui signe sa deuxième création originale pour Canal+, après Guyane. Décor somptueux, goût assumé et référencé pour le feuilleton ténébreux. Cette série produite par Emmanuel Dossé, à quel endroit un village français, et Vernon Subutex, entre autres, est mise en scène par Julien Despaux, Frédéric Balek-Djian et Fabien Nury lui-même qui signe l'épisode final avec dans les rôles principaux Jérémy Laherte qui n'a pas laissé insensible à Vaken, m'a-t-elle confessé tout à l'heure à l'oreille. Evelyne Brochu, Marc Barbet et la géniale Anne Benoît. Dans la presse, Télérama trouve qu'il aurait fallu plus de romanesque, de poésie et de rondeur pour que ce projet dépasse ses artifices et sublime sa noirceur. Et dans 20 minutes, il parle d'une fresque éblouissante, autant foisonnante que passionnante. On l'a compris, la série se veut à la fois historique, référencée, un thriller, mais également éminemment politique, avec la reconstitution de l'antisémitisme galopant dans les rues de notre capitale, donc autour de 1900. Est-ce qu'elle est à la hauteur de toutes ses ambitions, Marianne? C'est la question que je vous pose.
Écoutez, je suis très embêtée, hein, Xavier, d'endosser une nouvelle fois le rôle de la personne un peu sévère dans l'émission.
Là, ça ne durera pas, je sais que vous allez ouvrir votre cœur au fur et à mesure de
là,
l'émission.
Je vais essayer, mais sur ce projet-là particulièrement, parce que l'affaire Dreyfus, c'est quand même quelque chose qui est important dans l'histoire de France. Et effectivement, la dimension politique, en tout cas le point de vue, était nécessaire. Pour moi, il est complètement absent. Hein. J'en attendais énormément de cette cette série. Je suis ultra déçue. Alors, je suis d'accord avec...
Il est absent à quel niveau? Parce qu'il est quand même régulièrement évoqué. Qu'est-ce qui vous manque?
Parce qu'en fait, il sert de décor.
D'accord.
Il manque un propos.
De toile de fond, tu veux
voilà.
dire?
Voilà. Il d'accord. manque un propos sur cette période de l'histoire. Ce qui était vraiment très très bien fait dans The Plot Against America, David Simon, qui montrait comment la société avait glissé progressivement et s'était laissé gangréner hein, par l'intolérance. Donc voilà, pour moi, l'énorme problème...
C'était une uchronie, Plot Against America. Là, on est quand même dans une reconstitution historique.
Plutôt réaliste, oui.
Alors, et c'est tout le problème, en fait. Pour moi, c'est Paris Police 1900. Ok, je suis d'accord avec vous, les décors sont superbes, les costumes sont magnifiques, il y a énormément d'argent à l'écran. Mais le problème, pour moi, c'est que c'est une leçon de maquillage. Hein. Et comme je ne sais pas si vous le savez, Xavier, mais dans le maquillage, ce qui est plus important, c'est l'art de la gestion des couches. Et dans Paris Police...
Voilà, on y arrive.
Voilà,
on arrive au contouring, là.
Voilà, donc voilà, tout est dans le contouring. Et le problème de Paris 1900, donc, c'est que la couche numéro 1, c'est le contexte politique. Alors, Fabien Nury choisit de camper dans le camp de la haine, d'accord. Évidemment, hein, la haine, ça aide à caractériser des personnages. Hein, c'est une ligne de partage facile entre les bons et les méchants. Et comme souvent dans les séries Canal, d'ailleurs, hein, des méchants, il y en a des tonnes. Je trouve ça plus étonnant de la part d'Emmanuel Dossé, donc, à qui on doit le village français, qui était exactement la proposition inverse, qui s'emparait d'une période compliquée de l'histoire de France sur ces questions d'intolérance et qui, justement, était tout en subtilité, en complexité et qui travaillait la zone grise. Deuxième problème de Paris Police, pour moi, c'est la couche de maquillage numéro 2, hein, le glauque comme esthétique. Alors là, tout est dans le degré de fascination pour la boucherie. Ça découpe en gros plans, hein, des cochons, des lapins, des moutons, des corps de femmes. Ça pisse l'hémoglobine. Donc je pense qu'il y a aussi...
Il y a toute une partie qui se passe évidemment aux abattoirs de Belleville.
Voilà. Et je pense qu'il y a eu un énorme budget sang aussi hein, dans cette série. Pour résumer, je suis sombre, donc j'essuie. Et quand je n'essuie pas, je fais chanter, je torture, je me pique et de préférence en gros plan. Bref, je trouve qu'avec ces deux couches, Paris Police met en scène un univers tellement glauque et des personnages tellement monstrueux qu'elle devient grotesque, donc inefficace, et qu'elle se prive justement de toute dimension politique.
Je crois qu'Ava se réserve le droit de vous répondre, mais nous allons demander à Benoît ce qu'il pense de Paris Police 1900.
Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Marianne. Moi, je trouve que c'est même la série de la semaine, sans doute. Je pense que parce qu'il y a un vrai parti pris, on est vraiment dans cette époque qui a quand même vu émerger des journaux qui étaient adeptes aux faits divers, le théâtre Grand Guignol, des tas de d'objets esthétiques qui, à cette époque-là, étaient ce que Paris Police 1900 essaie de recréer. Et donc je trouve qu'esthétiquement, il y a un vrai parti pris qui est solide et qui tient la route. Ensuite, sur la question de l'antisémitisme, pour moi, c'est pas du tout un décor. Les personnages sont atroces, effectivement, ils sont grossiers, mais tous, pas que les antisémites, tout le monde est grossier parce qu'on est dans le Grand Guignol assumé. Et d'ailleurs, les références de Fabien Nury sont claires. Il suffit de voir aussi ses bandes dessinées, Il était une fois en France, Sublime, bande dessinée par exemple, où on retrouve le même goût pour le genre. Mais c'est pas parce qu'on fait du genre qu'on peut pas traiter des questions fortes. Et moi, je trouve que c'est ça qui est brillant dans cette série. Je suis assez d'accord sur ce que tu soulignes, sur l'esthétique de la violence, ce goût pour la boucherie un peu trop permanente, à mon avis, mais qui, moi, me gêne aussi dans d'autres séries qui l'utilisent, venues, par exemple, chez les anglo-saxons. Mais je trouve qu'au fur et à mesure que la série avance, et moins on est là-dedans, et plus les personnages vont en profondeur. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et qu'il n'y en a pas un qui est laissé de côté. Et ça, c'est bien.
Marianne n'est pas d'accord. On verra si on a le temps encore de vous laisser 20 secondes la parole. Mais Ava, laissons parler. Parlez à Ava, s'il vous plaît.
Eh ben moi, je rejoins plutôt Benoît, désolé Marianne, parce que c'est une série qui m'a vraiment surprise. Je la trouve très ambitieuse, je la trouve haletante, je la trouve originale. On retrouve vraiment les codes du polar, le parfum vénéneux de certains romans noirs de James Ellroy, des meurtres en série, et Paris, à l'orée du XXe siècle, en totale décrépitude. On dirait presque le Londres de Jack l'Éventreur, sauf qu'ici, ce sont les antisémites qui battent le pavé, les anti-dreyfusards qui veulent fomenter un coup d'État. Et justement, Félix Faure vient de passer l'arme à gauche, donc l'occasion est trop belle pour eux. Moreau. Donc le contexte, moi je le trouve absolument passionnant. Fabien Nury et son équipe ont vraiment travaillé à la reconstitution historique, c'est très documenté. Le travail est précis, il est dense. Et pour moi, il y a trois grands thèmes en fait dans cette série. D'abord, évidemment, le passé antisémite de la France, dont il reste malheureusement encore aujourd'hui des stigmates. Ensuite, la série parle de conditions féminines dans une société hautement patriarcale. Et toutes ces femmes de différents rangs, auxquelles la série donne corps et voix, ont une bataille à mener pour elles-mêmes, pour leur survie ou pour leur famille. Moi, j'ai adoré le personnage de la jeune avocate qui va aider Antoine dans son enquête et qui est interprétée par Eugénie de Rouen. Donc voilà, c'est intéressant de voir des pionnières de l'émancipation féminine côtoyer cette société qui est rongée par différents maux, par la pauvreté, par l'antisémitisme, par la violence. Et enfin, la série parle du rôle de la police, et je pense d'ailleurs à cette réplique du préfet de police qui dit, en parlant des citoyens, mais pourquoi ont-ils si peur de nous? Et ça, si c'est pas une question aussi qu'on se pose qui résonne très très fort. Donc voilà, le traitement des personnages, je le trouve super bien. J'ai adoré retrouver Jérémy Laherte, qu'on avait vu dans Tu mérites un amour d'Avia Herzi, dans un rôle et dans un registre complètement différent.
Ah, ici, il ne vous laisse pas indifférent.
Non, je l'avoue. Mais ce n'est pas que raison pour laquelle j'aime cette série.
Vous êtes un esprit pur.
Et bien évidemment, et parce que surtout son personnage essaye de se battre pour que la République reste la République. Donc voilà, globalement, tout le casting me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle a de la gueule, cette série, elle a du cachet. On pense aux frères Cohen, on pense un petit peu à Tarantino. Et au regard, par exemple, de séries en costume française dont on avait parlé dans Une heure en série, La Garçonne ou Le Bazar de la Charité, je trouve ça quand même vachement plus réussi.
Je vous sauve 20 secondes pour répondre à tout cela, chère Marianne.
Alors écoutez, moi j'ai quand même un énorme problème avec l'aspect monolithique des personnages. Finalement, ils sont violents, ils sont antipathiques, ils sont cyniques. Le camp anti-Dreyfusard, il est représenté sur 8 épisodes en 10 minutes. Parce que cette jeune avocate, c'est un tout petit personnage secondaire. Ce qui aurait été intéressant, c'est justement montrer que cette bataille a eu lieu. Et en fait, on est juste dans le camp de la haine. Et je trouve que c'est un peu, ça me rappelle une série Canal qui avait les mêmes travers, Maison Close. Qui touillait comme ça.
Vous poursuivrez la bataille à l'issue de cette émission, parce que là j'ai besoin quand même un petit
peu
de temps.
Avec plaisir.
C'était Paris Police 1900 sur Canal+, à partir de lundi 8 février.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais-moi la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début, beau, début, beau, début. Je découvrais Paris,
je découvre l'étranger,
je viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop l'air.
Les monuments crariés,
emportés comme jamais,
avec une envie,
installée sur ce pavé,
à chanter toute ma vie,
pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent,
pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment,
monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons,
comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début, beau, début, beau, début. Je devais quitter mes Nike et laisser sous le bateau. C'était n'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, m'en montrer ce que je vaux, montrer combien je fake, les gens te le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Bateau mouche, le nouveau titre de notre chouchou Eddie De Pretto. Une chanson autobiographique, hein, comme souvent avec ce formidable auteur-compositeur. Chaque chanson est pour lui une affirmation, un catharsis et une revendication. Un chanteur qui a l'art de transformer le jeu en une multitude de nous, qui nous parle à toutes et à tous grâce, entre autres, à des titres qui font le grand écart au combien réussi pour moi, entre la chanson naturaliste d'une fréelle, Paris Police 1900 par exemple, et les accents rocailleux de la pop urbaine contemporaine. Un album et une tournée à venir en 2021, on piaffe d'impatience.
France Inter. Une heure en série.
Petit conseil littéraire pour accompagner Paris Police 1900. Pour l'instant, le débat se tient tranquille, mais je pense que dès que l'émission sera finie, ils vont y repartir. Et je vous conseille de découvrir Légende de Paris sous les pavés, le mystère de Guillaume Bertrand, Paris aux éditions Webedia Books. Un beau livre idéal pour accompagner la série Police Paris 1900, qui parvient à s'adresser à la fois à un public d'ados curieux et d'adultes passionnés par tous ces secrets enfouis, énigmes irrésolues, légendes urbaines et étrangetés fantasmagoriques qui ponctuent depuis toujours l'histoire et forge la mémoire de notre capitale. Richement illustré et soutenu par une mise en page dynamique, ce tour opérateur de l'inquiétude ravira à coup sûr les fans d'Eugène Sue et de Fantômas. Du Paris maudit avec les fameuses portes du diable de Notre-Dame aux secrets enfouis du Père Lachaise, Guillaume Bertrand pousse les portes des cimetières lugubres et des geôles putrides, dresse le portrait sanglant de quelques serial killers d'avant l'heure et nous donne l'envie d'aller arpenter les rues Seguis de sous le bras pour redécouvrir les nombreux secrets de Paris, ludique et érudit, un ouvrage recommandé pour tous les archéologues du mystère. Légende de Paris, sous les pavés, le mystère de Guillaume Bertrand, aux éditions Webedia Books. Deuxième débat, sera-t-il plus sage? Je n'en suis pas sûr. Les aventures du jeune Voltaire, mini-série de 4 épisodes, diffusée sur France 2 en 2 soirées, les 8 et 15 février. Tout commence lorsque l'auteur de Candide expire d'une voix d'outre-tombe, c'est pas la meilleure idée, mais encore pleine de passion. Il se souvient de ses jeunes années, de ses débuts, jeunes années où il se nomme encore François-Marie Arouet et qui sont marquées par un goût prononcé et revendiqué pour la désobéissance. Désobéissance dont son père fait en premier les frais. De ses pamphlets qui lui la défiance du pouvoir et un passage par la Bastille au premier succès de sa pièce Oedipe, la série revient sur ce bouillonnant bretteur d'émo, fidèle en amitié, plus rarement en amour. Un garçon plein de sève, dans tous les sens du terme, qui collectionne les conquêtes, certaines étant d'ailleurs assez intéressées et propices à l'ambition inextinguible de ce fils de roturier, passionné, fort en gueule et sagace pourfendeur des nombreuses mœurs hypocrites de l'époque. Il se hisse au niveau du plus grand, qu'il admire autant qu'il le craigne. Un parcours haut en couleur pour un jeune homme charmeur autant qu'arrogant, sûr de son talent et qui n'aura de cesse d'affirmer celui-ci de la scène de la Comédie française jusqu'au couloir de Versailles.
Pour conquérir la gloire, ma plume sera mon fusil.
Je n'ai jamais été autant bouleversée par des vers. Vous m'avez emporté, monsieur.
C'est le plus beau compliment que vous puissiez faire à un auteur, madame.
Mais ces gens-là ne sont pas de ton monde, François. Faudra bien qu'un jour tu en conviennes.
À qui ai-je l'honneur ?
Voltaire, pour vous servir.
Vous allez encore parler de religion et de politique ? 11 mois à la Bastille ne vous ont pas suffi ?
Je vous croyais mon ami.
Je le suis, François. Donc vous resterez à votre place.
Je n'ai pas vaincu la mort pour courber les chines. On n'imposera plus le silence.
Vous avez la plume méchante, monsieur.
Voltaire, pour vous servir.
Quel que soit le talent, la naissance primera toujours.
Eh bien, je ne l'accepte pas.
Les aventures du jeune Voltaire, une série patrimoine créée par Alain Tasma, auteur de cinéma et de télévision, auquel on devait en 2005 l'unitaire Nuit Noire 17 octobre 1961, ou encore plus récemment, la série Aux animaux la guerre, d'après le roman éponyme de Nicolas Mathieu. Côté casting, on retrouve, on vient de l'entendre, Thomas Oliveres dans le rôle de Voltaire, un acteur que l'on a pu voir dans la version cinématographique d'Edmond, ainsi que dans la série Clash. À ses côtés, Christa Terré dans le rôle d'Adrienne le couvreur, le grand amour de Voltaire, mais aussi Eugène Marcuse, Éric Caravaca, Hippolyte Girardot, Thibaut de Montalembert, ainsi que Maud Weiler et Valérie Bonneton. A-t-il la plus méchante? En tout cas, c'est un beau parleur, donc je lui cède évidemment la parole en premier. Cher Benoît, qu'avez-vous pensé de Voltaire?
Alors, je vais commencer par le côté positif, qui
va être court.
Au fond a fait que j'ai regardé ça en me disant bon, c'est quand même plutôt une bonne surprise, parce qu'au départ je craignais la nouvelle série historique de qualité française, voyez-vous.
Vous avez
poussiéreuse.
Moi, c'est ce que j'ai vu quand même.
Non. Alors, bon, moi j'ai vu quelques pièces qui n'ont pas été très dépoussiérées, mais quand même pas mal de choses, notamment des scènes d'orgie, enfin, des choses qu'on ne verrait pas sur une chaîne comme France 2 à 21h. Voilà, il y a des choses qu'on ne voyait pas. Hein. Donc là, on les voit, c'est plutôt bien. Thomas Oliveres, dans le rôle du jeune Voltaire, il est brillant. Alors, il n'est pas BFF, c'est-à-dire Best Friend Forever. Voilà, il est plutôt brillant et abaffé. Alors, BBFE, je ne sais pas comment on dit.
Vous avez pris quelque chose dans l'émission.
Donc je trouve que tout ça fait que la série globalement a une bonne entrée. Le problème c'est qu'il y a que 4 épisodes et que du coup on voit qu'il y a que 4 épisodes et que tout tourne autour de ce fameux personnage. Qu'il est entouré de bon nombre de personnages qui ne sont que du coup des figurants, des personnages qui apparaissent, qui sont dans le décor, et que moi je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais aimé comprendre un peu plus ce qu'est la jeunesse de cette époque, par exemple. Et Alain Tasma a su très bien le faire dans d'autres séries, je pense notamment Les Bleus dans la police, qui était parfaite, je trouve. Mais là, malheureusement, je trouve que ce n'est pas traité, parce qu'on n'est que sur Voltaire, on n'est pas sur ses amis. Et en fait, tout ça qui m'a gêné au début, j'ai trouvé plutôt bien, et puis au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit, bon, bah alors quand est-ce que ça se termine? Heureusement, il n'y a que 4 épisodes.
Allez, je tente un très mauvais jeu de mots, une série sur Voltaire, pas très survoltée. Voilà, c'est un peu ce que je lui reprocherais, cher Abakaï, qui a la gentillesse de rire à mes mauvaises blagues. C'est pour vous dire quand même si je me suis entouré de gens bien. Qu'avez-vous pensé des aventures du jeune Voltaire?
Moi, je suis plutôt sur le bémol de Benoît, en fait. Donc, moi, c'est moins ses idées, ses principes et ses écrits qui sont au centre de la série. Alors, à Voltaire, que ses histoires de fesses.
Qui ne nous voient pas, Marianne boue.
Oui, c'est vrai. Mais je te laisse très très vite la parole, ne t'inquiète pas. Donc voilà, bon, je comprends le parti pris, en fait, de la série. C'est toujours très délicat de filmer quelqu'un au travail, surtout un penseur. Donc, je comprends le choix de visiter ses jeunes années, les copains, la débauche, et en parallèle de voir son succès grandissant. Puis il y a aussi sa famille très pieuse, son père, son grand frère jaloux, qui dit que Voltaire lui fait honte parce qu'il ne vit pas comme un catholique, mais comme un libertin. Donc tout ça, c'est une matière à feuilleton, j'en conviens. Et si ça donne envie de lire ou de relire Voltaire comme Lupin a donné envie à la jeune génération de lire du Maurice Blanc, eh bien j'en serais la première à m'en réjouir. Mais je suis pas certaine que cette mini-série trouve son public jeune, quoi, en réalité, parce qu'elle manque de modernité. Et en fait, on s'en rend compte dès le prologue. Vous en parliez, Xavier, le procédé est usé à la corde. Voltaire agonisant. Bon, voilà. Globalement, le rythme est inégal. Tout marine un petit peu dans son jus. J'ai pas du tout aimé la photo. Il y a des scènes très surexposées qui piquent un petit peu les yeux. Alors oui, le casting est royal. C'est un petit peu la gageure de la série. Et Thomas Oliveres est très bon. Voilà. Donc, des acteurs de théâtre, des acteurs de cinéma, des acteurs de télé, tous très identifiés. Mais voilà. Moi, j'y trouve pas beaucoup mon compte. On préfère dans cette série déboutonner des corsets et faire des sonnets pour séduire des aristos plutôt que de défendre, les idées rebelles de notre Voltaire.
Est-ce que déboutonner les corsets a eu un effet positif sur votre façon de voir les aventures du jeune Voltaire, chère Marianne?
Je crois que cette semaine, les amis, on n'a pas mis les mêmes lunettes pour regarder la télévision. Moi, alors, je me suis totalement laissée embarquer par ce Becoming Voltaire. Je trouve qu'on y trouve tout ce qui manque à Paris 1900. Et oui, de la finesse, du contraste, de la délicatesse, de la gourmandise, des dialogues brillants, des personnages attachants et un jeune Voltaire follement énergique. Génial, Thomas Oliveres. Pour moi, je sais, Xavier, que vous me fusillez un peu du regard, là.
Pas du tout. Je trouve que c'est un très, très bon acteur. L'écran dans lequel il est, pour moi, n'est pas très à sa hauteur, mais...
Donc, je continue ma déclaration d'amour à ce Voltaire. Alain Tasma, lui aussi, hein, il a eu beaucoup d'argent, mais il n'en a pas fait des caisses, contrairement à nos amis de Paris Police 1900. Et je me demande si c'est pas ça la solution, hein. Oublier d'être là pour se mettre au service de ses personnages, se caler sur leurs pulsations cardiaques, ne jamais lâcher le regard de ses comédiens, faire confiance à la vie. Dans ce Voltaire, on oublie les siècles, il y a juste l'ambition, la jalousie, le désir, la peur et surtout la passion de la liberté. Du coup, l'ascension de Voltaire devient la nôtre, en tout cas la mienne. Hein. Oui. Et avec sa bande de potes, il nous part d'une époque dans laquelle on résiste et d'une société qu'on rêve de changer. Un questionnement sur le passage à l'âge adulte, ultra universel, et que j'ai trouvé parfaitement mis en scène par un Tasma qui invente pour moi une nouvelle forme de série historique, le classic pop.
Eh bien, j'aurais adoré voir la série avec vous, chère Marianne, et avec votre enthousiasme. On va laisser Marianne conclure, hein, oui, voilà, absolument, sur cette note positive que je respecte complètement, sans la partager complètement. Non plus, je crois qu'on l'aura compris, les aventures du jeune Voltaire, mini-série de 4 épisodes, qui commence sa diffusion lundi soir, le 8, et qui se poursuivra jusqu'au 15 février.
Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Faire si je peux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime d'une aventure bellissime. Cette rencontre est rarissime. Oh, 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 quelle histoire! Le feu. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme-là me déshabille, ce soir mon corps sent la vanille. Tout simplement, il a dit, viens et vainement, je me retiens. Il fait tout cela pour mon bien. Son désir a tissé les liens. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil. Dehors, il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien. Ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom? Je n'en sais rien, mais je crois qu'il est brésilien. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux.
Quelle histoire, Jeanne Moreau, est-il besoin de le préciser, une samba mutine et faussement prude, où chaque mot compte double par le jeu puissant d'un vocabulaire justement à double sens. Un titre sublimé par l'interprétation faussement candide de l'immense Jeanne Moreau, qui feint ici de jouer les prudes tout en cédant délicieusement à l'appel des sens. Une pure merveille.
France Inter. Une heure. Tueurs en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagane, où l'actualité est racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. La semaine dernière, vous nous aviez laissé en plein milieu d'un suspense absolu, en clin d'œil au Vendée Globe. Vous nous aviez parlé de Skipper en série et vous aviez donc promis aujourd'hui, ce soir, de nous parler de la série, mais vous ne l'aviez pas citée. Et donc maintenant, nous pouvons révéler que vous allez parler de Entre Terre et Mer. Alors, après les Skippers, des marins en série, suite et fin de cette chronique à épisode.
Oui, Xavier. Alors, effectivement, après ma petite sélection d'aventuriers des mers, retour aujourd'hui sur un créateur de série qui a su mettre à l'honneur des marins à la télévision française à la fin des années 90, au moment où justement la télé française se désintéressait de plus en plus du monde paysan. Et c'est par l'histoire des Terre-Neuvas, donc pêcheurs bretons qui en 1900 quittent leur famille, leur ferme et leur terre pour partir à la pêche au large de Terre-Neuve, que la télévision en série retrouve le goût du large, donc dans Entre Terre et Mer. C'était récompensé à l'époque, la série avait été récompensée par 3 sets d'or, et à l'époque, ces prix avaient encore une valeur. C'était une série en 6 épisodes de 90 minutes qui redonnait donc une stature héroïque à des marins qui n'étaient pas des aventuriers, juste des hommes qui partaient jusqu'au large de Saint-Pierre et Miquelon pour gagner leur vie par la pêche et le commerce de la morue. Pendant leur long voyage en mer, où les hommes risquaient de ne jamais rentrer, eh bien les femmes, elles, tenaient la ferme à flot, avec l'aide d'ouvriers agricoles venus du fin fond des terres. Pour écrire cette histoire, en fait, un expert en la matière s'est imposé, c'est le scénariste et réalisateur Hervé Ballet. Malouin, petit-fils de Terre-Neuvas lui-même, connaissait très bien cette histoire. C'est un créateur de télé pudique qui n'aimait pas la vie de salon. Il préférait les embruns de la côte d'Émeraude. Ceci explique sans doute pourquoi sa mort en novembre dernier est passée quasi inaperçue, enfin quelques petites nécrologies près. Hervé Ballet, qui savait filmer les somptueux paysages de Bretagne comme de Saint-Pierre et Miquelon, aimait aussi capter les visages de ces petites gens, interprétés donc dans cette série par Roland Blanche, Didier Bien-Aimé, Bernard Fresson, qui était en mer, ou Anne Jacquemin, Marina Golovin ou Michel Glaser sur Terre. Un très beau travail sur la photographie qui rend d'ailleurs la série presque 25 ans après, toujours d'une grande beauté. Hervé Ballet, entre Terre et Mer, savait aussi écrire avec beaucoup de justesse la douleur de ceux qui ne voyaient pas revenir de la grande traversée en voilier leur fils ou leur fiancé pris par la mer en pleine tempête.
Ils en font du bruit dehors.
Ils ont le droit de rire. Ils ont aussi peur d'y rester, eux aussi. Pour se calmer, ils avaient besoin d'en prendre un. En se noyant, René leur a sauvé la vie. C'est pas de veine pour nous. Et tant mieux pour les autres.
Et au moment donc où des marins rentrent à bon port et font la une des actualités, que le monde agricole privé de salon parisien reste à terre, les séries de Hervé Ballet mériteraient d'être revues tant pour la qualité des scénarios et la douceur des dialogues que pour la mise en scène sobre et classique. Il avait signé une série sur des ouvriers à Longwist dans Le Cri, une autre sur les paysans bretons dans Le Chandolant ou alors Les Pêcheurs d'Entre Terre et Mer. Hervé Ballet n'a eu de cesse tout au long de sa carrière de rendre visibles les gens d'un monde dont il était issu. Pas étonnant pour celui qui avait débuté comme réalisateur d'une série documentaire de Pierre Dumayet intitulée « Histoire de gens » où des historiens racontaient la vie quotidienne opposée à une vision de l'histoire dictée par l'événement et la vie des puissants. Petit-fils de paysans et de pêcheurs, chrétien devenu avec le temps assez critique envers l'église catholique, Hervé Ballet, c'était aussi un ancien cégétiste éloigné de la vie syndicale. Il n'a jamais coupé en revanche de la vie des petits travailleurs, comme il l'avait déclaré à la Croix. Avec ses masques, on s'étouffe un petit peu. Mais je vais essayer quand même de relire ce qu'il avait expliqué. Il savait pas comment les nommer, ces personnages. Il disait les sans-grades ou les gens de peu. Mais il ajoutait, lorsque j'écris les scénarios, j'éprouve toujours un grand attachement pour les personnes auxquelles je donne vie. Je partage leur existence de papier. Et je sors toujours épuisé de ces expériences et il m'arrive de pleurer sur un mot ou sur une scène et à revoir le téléspectateur, lui souvent, essuie une larme. Et voilà, et la série est vraiment à revoir.
Merci beaucoup Benoît pour tant d'émotions. On peut signaler que Entre Terre et Mer, donc la série d'Hervé Ballet, est encore disponible en DVD chez France Télé Distribution. L'effet miroir de Benoît Lagane, une chronique que vous pouvez réécouter en podcast ou dans quelques heures en rediffusion entre 2h et 3h du matin cette nuit. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec ce soir à Vacaen, Marianne Lévy et Benoît Lagane. Et c'est l'heure du troisième débat consacré à Dietland, une série américaine de 10 épisodes disponible sur Prime, mais qui commence également une deuxième carrière à partir de demain soir sur la chaîne Teva. Comme ça, si vous n'êtes pas Prime, vous pouvez découvrir Dietland, une saison unique, car hélas, la série n'a pas été renouvelée, annoncée comme féministe et anticonformiste mettant en scène Plum Kettle, une jeune femme tout en rondeur qui écrit dans l'ombre pour son exact contraire, une rédactrice en chef sèche et plate comme une limande qui semble n'avoir rien avalé de solide depuis plus de 20 ans. C'est pas mon cas. Deux contraires qui s'unissent pour le pire, puisque Plum signe sans se nommer des articles dans une revue qui impose un modèle unique de corps féminin parfait, modèle imposé par le diktat du regard masculin, un de ces instruments de propagande et de culpabilisation de la gente féminine qui, malgré les nombreuses privations, ne parvient jamais à ressembler à ces mannequins de 30 kilos. Mais cette fois, Plum a décidé d'en finir. Et avec les régimes et les prises médicamenteuses, elle envisage désormais de se faire opérer pour être enfin l'incarnation de son rêve de minceur. Mais son projet va être contrecarré par l'émergence d'un groupe de femmes terroristes appelées Jennifer, qui kidnappent des prédateurs sexuels et les relâche, on peut le dire, dans un triste état.
I never wanted to stand out. I was just trying to fit in.
People like pretty things. You're not a thing.
That's me, Plum Kettle. Working for the country's biggest beauty magazine.
Dear Kitty, losing weight is impossible.
I just make my hair look dry and unhealthy.
I answer letters to the picture-perfect editor, Kitty Montgomery.
Plum, I always forget what beautiful eyes you have.
Dietland, une série à la causticité parfois dérangeante, mais vous me direz dans quelques instants si c'est à bon ou mauvais escient, une série qui, selon moi, met un peu de temps à trouver son équilibre d'écriture entre satire, thriller et dénonciation féroce. Elle est créée par Marty Noxon, qui avait fait ses armes sur Buffy contre les vampires, avant de travailler sur Glee, Mad Men et récemment sur Sharp Objects, une série adaptée du roman éponyme de Sarah Walker, avec dans les deux rôles principaux celui de Plum, Joy Nash, que l'on a vu dans Twin Peaks, la troisième saison, et face à elle, Juliana Margulies, je ne sais jamais comment
Margulies,
on dit.
Très bien.
Ah, vous êtes tous des faillots. Rôle principal de The Good Wife, entre autres, et assez épatante ici, en Garce Suprême. N'y voyez aucun rapport de cause à effet, mais je passe la parole après avoir parlé de Garce Suprême à Macaën. Non, je ne règle pas mes comptes à l'antenne et en direct.
Mais j'aime beaucoup ça, écoutez. Bah, moi, j'ai presque avalé en entier hein, ces 10 épisodes. Enfin, presque d'un coup. Ils m'ont bousculé. Dietland, c'est une comédie qui est une comédie noire, hein, radicale, vous l'avez dit, pleine de peps et de femmes en colère, qui fait la critique et qui l'a fait au vitriol hein, de l'industrie des régimes, de ce qu'on appelle le fat-shaming, de la presse féminine, de toutes les normes et injonctions qu'elles font peser sur les femmes dès leur plus jeune âge. C'est une série qui déconstruit absolument tout, et contrairement à des séries comme Insatiable qu'on a pu voir par exemple sur Netflix, et ben ici on raconte pas la transformation d'une femme grosse vers la minceur, mais on cherche à comprendre pourquoi notre héroïne est si mal dans sa peau et si cruelle surtout vis-à-vis d'elle-même. Depuis qu'elle est gamine, Plum se déprécie, elle s'impose des diètes et des séances de sport jusqu'à en avoir le vertige. Dans sa tête, être grosse, c'est être moche, pas désirable, célibataire ou aimant à détraquer, pervers, fétichiste, enfin la liste est longue. Et c'est une bande de féministes réunies en communauté qui va aider Plum à changer la perception qu'elle a d'elle-même. Donc moi j'ai trouvé ça très beau et très vibrant parce qu'on apprend avec Plum à la regarder, à se regarder autrement. Elle apprend à s'émanciper des regards stigmatisants. C'est un parcours qui n'est pas du tout évident, hein. C'est même le parcours du combattant. On passe par tous les états, on en voit toutes les couleurs. Mais je trouve que c'est nécessaire pour qu'on ouvre les yeux comme le personnage ouvre ses yeux sur lui-même. Je ne voulais pas être la super-héroïne, je voulais être la copine du super-héros, dit-elle au début de la série. Et petit à petit, elle va se transformer, hein, notre Plum en super-héroïne. Donc voilà, l'approche sans détour que fait la série de la grossophobie et des représentations de celles et ceux qui en souffrent, je la trouve hyper juste. Et puis en parallèle, il y a cette intrigue effectivement policière, voilà, des crimes qui secouent les États-Unis, des hommes, des prédateurs, des criminels assassinés par une organisation nommée Jennifer, qui est une sorte de branche armée du mouvement MeToo. Et on se demande au premier épisode hein, comment le maillage entre les intrigues va se faire. Et puis les épisodes suivants, je trouve, y parviennent de manière très intelligente. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de l'animation. Du cartoon, quoi, parce que ça dit beaucoup de choses de la manière dont Plum aussi vit dans une forme de fiction, quoi. Donc voilà. Et puis la méchante, hein, Juliana Margulies, qui incarne donc un genre de Wilhelmina Slater dans Ugly Betty ou Anna Wintour, patronne de Vogue. C'est un personnage d'abord détestable, puis terriblement, en fait, pathétique, parce que Kitty, donc, elle est prisonnière, elle aussi, hein, de son image, de sa maigreur, de tout ça, et elle est est façonnée pour plaire aux hommes riches, blancs, etc. Donc la série, elle a une cible. Hein. Il faut être un petit peu sympathisant de la cause féministe et du body positivisme, mais je trouve qu'elle s'adresse quand même à tout le monde et ça vaut vraiment le détour.
Est-ce que ce prosélytisme de la justice expéditive, de l'auto-justice, ne va pas d'une certaine manière à l'encontre de la cause défendue? Moi, c'est la question que je me pose et que je pose à Marianne.
Eh ben voilà une série politique, voilà une série qui dit quelque chose du monde dans lequel on vit, et je suis complètement d'accord avec Ava, moi je ne trouve pas du tout ça antiproductif. Moi j'ai même vu un anti-conte de fées ultra transgressif, hein. D'habitude les séries qui parlent des femmes, comme tu l'as dit Ava, hein, elles font plutôt l'apologie d'une métamorphose qui serait salvatrice. Ici c'est tout le contraire, hein. Elle fait exploser le « je suis mince donc je suis ». Vous aurez noté, Xavier, que c'est ma semaine des cartes.
C'est vrai.
Non, mais bien placé.
Hein, voilà. Elle organise une confrontation entre deux femmes prisonnières des diktats de la société. Hein. D'un côté, Plume et son corps qui occupe tout son espace mental. De l'autre, sa bosse et son combat pour la minceur éternelle. Hein, une forme de Cruella effrayante. Ouais. Et voilà. Les deux comédiennes, elles sont d'ailleurs, toutes les comédiennes sont géniales dans la série. Cette approche radicale sur le corps féminin est vraiment très intéressante parce que Dietland, et ça c'est sa force, c'est ce que tu pointais, Ava, elle utilise tous les artifices de la fiction. Non seulement il y a de vrais personnages complexes, fragiles et forts, mais des personnages qui ne sont jamais de simples porte-manteaux de la cause féministe, mais surtout il y a une forme de récit qui perturbe, avec les séquences de rêves, les séquences de cauchemars. Je ne sais pas si ça a été voulu par les scénaristes, ce fouillis, mais il a une forme de radicalité aussi, parce qu'il parle du féminisme comme d'un combat pluriel, multiforme et en invention permanente. Alors oui, on se perd en route, souvent on appuie sur pause, on revient en arrière pour comprendre. Ça fait l'effet d'une claque en tout cas, et ça imprime longtemps, et je trouve pas ça inutile aujourd'hui.
Benoît Lagan, à propos de Dietland sur Teva.
Ben moi, c'est un peu une déception en réalité, parce que tout ce que vous avez dit, je vous écoute, hein, je l'entends, j'ai tenté de le percevoir et j'en ai perçu un peu, hein, dans ce que j'ai vu. Sauf que justement, enfin moi mon problème, c'est que par exemple à Ava, t'évoquais la question de d'un personnage animé,
oui.
Et qu'effectivement quelque chose d'assez poétique dans son intervention. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au bébé d'Ali McBeal qui aurait été digéré par Daria, vous voyez
un peu. C'est un peu ça.
Il y a quelque chose un petit peu comme ça. C'est pas mal cette idée, mais voilà, il y a plein d'idées comme ça. Et après, du coup, c'est par petites touches. Il y a le moment où aussi elle fait des gâteaux, et je trouve qu'il y a un très bon moment où elle fait des gâteaux. Pareil, un petit moment de poésie très doux. Mais sauf que moi, mon gros problème, c'est justement cette mécanique d'un côté de la quête de l'héroïne et de l'autre des terroristes. Et ces deux histoires, en fait, je trouve, se briquent jamais vraiment. J'ai du mal. Au bout du cinquième ou sixième épisode, ça commence. En fait, on voit bien que c'est imbriqué.
On voit bien comment c'est tricoté. Bien,
mais voilà. Sauf qu'on voit les lignes de scénario, on voit complètement l'écriture. Et je me dis à un moment donné, pourquoi il fallait... Alors, il aurait fallu peut-être laisser plus de temps à...
Une saison 2.
Peut-être une saison 2 pour le développer un peu plus.
Ou alors des scènes de boucherie, peut-être, comme dans Barry. Peut-être qu'il aurait fallu des prédateurs qui découpent.
Non, mais ce que je trouve, c'est que justement, la série n'arrive pas à choisir son camp. Et à un moment donné, ça me gêne. Ensuite, moi, j'adore Juliana Margulis. Je l'ai adorée dans The Good Wife, je l'ai adorée dans Urgence. Mais là, je trouve que elle surjoue un peu la patronne de presse un peu peste. Voilà. Alors, on voit bien qu'elle évolue au fil des épisodes, bien évidemment. Mais elle m'a pas vraiment touché. Elle m'a même un peu agacé, à vrai dire. Donc, le problème, c'est qu'une série, on regarde des épisodes, et on espère qu'un jour, ça va nous emporter. Et moi, au sixième épisode, ça m'avait toujours pas complètement emporté. Sachant qu'il y aurait pas de saison 2, qu'il y aurait que 10 épisodes, bah, je me suis arrêté là.
C'est pas bien.
Non, c'est pas bien.
Nous venons de parler de Dietland sur Teva, donc à partir de demain soir, 7 février.
The last time we were together. Lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. Give me one more second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. Why can't you just tell me what you're doing here?
One More Second de Matt Berninger. On le connaît depuis 20 ans puisqu'il officie au sein du quintet The National, qui est un groupe absolument formidable. Après 8 albums solo, donc avec The National, il a enfin sorti en octobre dernier un premier opus en solo intitulé Serpentine Prison, album où il peaufine et épure une inspiration folk et rock, on vient de l'entendre, qui vous en sert de sa voix grave et de sa fausse douce quiétude. Vous devriez aller voir quelques images de Matt Berninger, je suis sûr, cher Ava, que c'est tout à fait votre genre.
France Inter. Une heure en série.
Allez, on a le temps, on a même bien le temps d'ailleurs, d'un plateau télé gourmand. Alors en temps de couvre-feu, ça fait plus de 2h30 que nous êtes chez vous ce soir. Donc si l'envie vous en prend de regarder une série, Marianne, vous nous recommandez Ballers, qui passe sur la plateforme OCS.
Oui, en replay. Alors pour égayer des vacances sans bistrot, sans resto, sous couvre-feu, moi cette semaine j'ai eu envie d'offrir aux auditeurs un billet pour Miami. Un Miami toc et paillettes où Spencer Strathmore, alias The Rock, parce que je pensais que vous alliez me lancer sur Miami Vice, Don Johnson. Enfin, j'avais prévu tout un truc, mais non.
Il fallait me prévenir. Moi, si vous ne le dites pas, vous savez, Marianne,
mais non.
Je n'ai pas assez d'imagination et de talent pour ça.
Mais non, donc...
Donc The Rock.
The Rock.
Le meilleur acteur, le plus monolithique, le moins expressif de l'histoire du cinéma américain.
Qui essaye de se réinventer une vie, hein, à l'issue de sa carrière de star de football américain. Non, Ballers n'est pas réservé aux fans de sport. La série nous entraîne dans les coulisses du sport business parce que Spence, pour les intimes, je ne sais pas si...
Non plus, toujours pas. J'ai tenté. C'est gentil, Marianne, de m'inviter dans votre chronique, mais...
D'accord. Donc Spence, pour les intimes, va devenir l'agent d'une bande d'adolescents surpayés à l'ego surgonflé.
Rien à voir avec le football français, par exemple.
C'est parallèle tout à fait. Je ne sais pas pourquoi ça vous passe.
Je ne sais pas, moi non plus.
Okay. Débute alors un no limit à la testostérone jubilatoire, car voyez-vous, à l'heure où nous essayons de surmonter de vrais problèmes, hein, ces gars-là, ils en ont plein des faux, des problèmes. Genre, j'adopte un lama comme animal de compagnie et il me crache à la gueule. C'est frais et ça amène...
Ah oui, oui, c'est exactement ce qui nous vient à l'esprit.
Je suis pas
la
certaine.
Fraîcheur. Continuez, Marianne, pardon. Donc on en était assez frais, après le lama qui crache à la gueule, d'accord ?
Elle va pas y arriver.
C'est frais.
Tu es professionnelle.
C'est frais. Ça a même du sens, ce voyage en garçonnie. Hein, car les excès en tout genre de ces gars-là servent de piqûre de rappel sur les enjeux féministes. Et puis, on y retrouve John David Washington dans l'un de ses premiers rôles. Et on parle quand même beaucoup de lui en ce moment, depuis.
Et un fort juste titre. Merci beaucoup,
Crossover avec Dightland, ce serait très bien, je pense.
Ah oui, ouais. Vous nous avez parlé de Ballers, donc diffusé en replay sur OCS.
5 saisons.
5 saisons. Vous nous avez parlé également de testostérone jubilatoire. Ça, c'est quelque chose à laquelle, eh bien, Ava est très sensible,
ou
la testostérone jubilatoire. Vous nous en parlerez. Et vous nous recommandez à nouveau, puisqu'on en a déjà parlé, mais c'est un nouvel épisode spécial d'Euphoria, donc la série qui passe également sur OCS. Vous nous recontextualisez tout cela un tout petit peu ?
Eh ben oui, un petit peu, parce que Euphoria, on en a parlé, hein, donc dans Une heure en série, c'est la série de Sam Levinson qui met en scène des adolescents américains en crise et en quête. Deux héroïnes sont nées de cette série, deux personnages et deux magnifiques actrices. Rue, interprétée par Zendaya, et Jules, interprétée par Hunter Schaeffer, jeune fille trans. La série a beaucoup fait parler d'elle pour son côté trash et queer, mais surtout pour son traitement pop, mais réaliste, de ce qu'est l'adolescence aujourd'hui.
C'est ça qui est très réussi dans
Euphoria. Pas de candeur, effectivement. C'est sexe, drogue, pop musique et névrose ultra collante. Mais il y a aussi beaucoup de pudeur. Et justement, en attendant la saison 2 qui devrait arriver en 2022, HBO et OCS ont réservé aux fans de la série une surprise en 2 épisodes spéciaux. Le premier a été diffusé au moment des fêtes de Noël et met en scène Rue dans un diner qu'on croirait peint par Hopper face à son parrain des Narcotiques Anonymes. C'est un épisode magnifique sur la résilience. Et le second est sorti fin janvier et nous présente Jules dans un cabinet de psy. Donc voilà, retour en thérapie, coucou la semaine dernière. Et cet épisode spécial est absolument bouleversant parce qu'il est, comme la série, extrêmement sincère. Hein. Jules se met à nu. L'actrice qui l'interprète a d'ailleurs coécrit cet épisode avec Sam Levinson sur la base d'un poème qu'elle avait écrit quand elle avait 16 ans. Il est question de sa vie, de son rapport à son corps, de sa transidentité, de ses fantasmes et de son histoire d'amour avec Rue. On ne sort pas indemne de cet épisode, je vous préviens, mais il est tellement nécessaire. J'ai l'impression d'avoir basé toute ma féminité autour des hommes, alors qu'en réalité, ils ne m'intéressent plus, dit Jules dans cet épisode. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec Dietland. Hein. Et cet épisode, en français, il s'appelle « J'emmerde tout le monde, sauf les blobs marins ». Les blobs marins. Donc voilà, c'est sur OCS. Ce n'est pas un remède à la mélancolie, mais c'est une vraie leçon de jeu et de mise en scène.
Il y aura d'autres épisodes spéciaux de Euphoria. Ils vont continuer comme cela ?
Eh ben,
c'est prévu.
Je ne crois pas.
On ne sait pas. Bon, alors,
je ne crois pas.
Profitez-en. D'autant plus, effectivement, c'est une formidable série d'un réalisme et en même temps d'un surréalisme et d'une poésie absolue sur le monde de l'adolescence. J'ai quelques poignées de secondes pour vous recommander à mon tour une série coréenne, évidemment, sur Netflix. C'est quand même la plateforme qui en diffuse un maximum. Alors, je sais pas si vous voyez The Host, le film qui se passait en Corée avec un monstre qui bouffait tout sur son passage, que l'on pourrait croiser avec Parasite, c'est-à-dire un huis clos dans une maison où tout le monde en vient à se détester. Là, c'est exactement le principe de Sweet Home. C'est-à-dire, dans un immeuble, des Coréens venus de tous horizons sont bloqués parce que dehors, il n'y a que des monstres qui veulent absolument leur faire la peau et leur bouffer la tête. Et à partir de là, non seulement c'est extrêmement drôle, mais c'est surtout une vision extrêmement sombre, extrêmement noire de la société coréenne, où en gros tout le monde se déteste, personne ne s'entraide, aucune solidarité. Bref, c'est à la fois extrêmement risible et extrêmement inquiétant. Sweet Home sur Netflix. Une heure en série, c'est fini. Mille merci à vous, à Vakaen, Marianne Lévy et Benoît Lagan d'y avoir participé. Je ne la pensais pas aussi mouvementée, cette émission, mais je suis ravi qu'elle ait été ainsi. Merci à vous toutes et à vous tous aussi de l'avoir écoutée. Nous vous avons recommandé dans un ordre dispersé, en tout cas pour nos chroniqueurs, Paris Police 1900 sur Canal+, Les Aventures du jeune Voltaire sur France 2, et Dietland, à part Benoît.
Oui.
Voilà.
Point levé.
La semaine prochaine, nous vous évoquerons WandaVision, Vision sur Disney+, Your Honor sur Canal+. Demain, 20h, on l'a entendu juste avant l'émission, rendez-vous avec Jérôme Garça pour le Masque et la Plume consacré au prix des auditeurs 2020. Quel a été votre film français et étranger préféré? Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion tout à l'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet pour retrouver l'intégralité du programme, nous envoyer des courriers. L'émission a été réalisée comme chaque semaine, elle est indispensable. Marianic Rimbaud derrière le clavier de la mise en scène, de la mise en onde, programmation musicale assurée par Muriel Pérez. Et j'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi et ce soir à la technique, l'excellent Philippe Duclos.